Europa Voice numéro 36. Et comme chaque épisode, eh bien, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Bon, on va parler d'Europe, c'est le principe d'Europa Voice. Et bah, cette fois-ci, on ne va pas forcément parler du Brexit, en tout cas pas tout de suite. Il y a eu un conseil européen, un conseil des ministres européens. C'est important puisqu'on a parlé de l'élargissement et de cette idée d'élargissement de l'Europe. Alors qu'en fait, justement, s'il y a le Brexit, il y a la Grande-Bretagne qui veut partir. L'Europe regarde déjà loin devant.
Oui Christophe, tout à fait. Alors cette semaine, se sont réunis les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et puis, ils ont discuté de ces problématiques d'élargissement. Alors, il faut savoir et rappeler à nos auditeurs que Emmanuel Macron, lors d'un dernier Conseil européen qui avait eu lieu mi-octobre, avait, d'une certaine façon, fait bouger les lignes par rapport à la politique européenne d'élargissement, puisqu'il s'était fortement opposé à l'ouverture des négociations, donc véritablement en amont.
Il a fait bouger les lignes pour ne pas bouger.
Il a fait bouger les lignes,
faut quand même le rappeler.
Pour ne pas bouger, mais en tout cas, il a pris position contre justement l'ouverture de ces négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Et d'une certaine façon, il a fait un peu jurisprudence sur l'échelle européenne et il a posé ou lancé son ancre. Et puis maintenant, on voit les négociations, les discussions entre leaders européens, elles se font à partir de cette position finalement assez ferme, assez réelle politique d'Emmanuel Macron sur ce processus d'élargissement de l'Union européenne.
Il faut rappeler qu'il n'est pas contre l'élargissement de l'Europe, il a juste dit qu'il faut déjà qu'on solutionne nos problèmes internes avant d'accepter quelqu'un de nouveau, vu qu'il y a quelqu'un qui s'en va déjà, il y a la Grande-Bretagne qui s'en va, il faut qu'on arrive à élaborer et décider quelles sont les lignes avant qu'on autorise qui que ce soit d'autre à l'intérieur du groupement.
Alors je crois qu'il y a, Christophe, il y a trois aspects pour répondre à cette question. D'abord, et on le rappelle pour nos auditeurs et pour tous les aficionados du podcast Europa Voice, le dilemme, ou en tout cas le débat entre approfondissement et élargissement, il n'est pas nouveau. Il a lieu depuis déjà plusieurs dizaines d'années, c'est toujours cette question-là. Maintenant qu'on arrive à un nombre assez conséquent d'États membres de l'Union européenne, 27, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est d'approfondir avec les États membres et d'avoir encore plus de compétences supranationales fédérales? Ou est-ce qu'on est arrivé à un point où on se dit, bon, ça y est, on a transféré à l'Union européenne assez de compétences, on peut donc se permettre d'élargir et de faire entrer dans le cercle, si ça correspond aux critères, de nouveaux États membres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Christophe, vous venez de le mentionner, c'est effectivement la question du Brexit. C'est aussi la première fois qu'on voit dans l'histoire de l'Union européenne qu'on a à la fois des membres qui veulent toujours entrer dans le club très fermé de l'Union européenne, mais la première fois qu'on a un membre qui sort. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi besoin de reconsidérer finalement les possibilités non pas seulement d'entrer au sein de l'Union européenne, mais aussi de sortir, parce que
pour ajouter à la complexité, il y a même une partie d'un État qui est membre qui souhaiterait y rester.
Oui,
l'Écosse. Ça, c'est autre chose.
On va parler d'Écosse, mais ce que je veux dire, c'est que si le Brexit s'était passé d'une façon beaucoup plus simple, ces questions ne se poseraient pas. Mais là, on le voit, quand un État membre veut sortir de l'Union européenne, c'est compliqué. Donc peut-être qu'avant de faire entrer de nouveaux États membres, il faut clarifier aussi le processus et la possibilité d'États membres de sortir de l'Union européenne. Et le troisième aspect, donc, après le débat sempiternel entre approfondissement, élargissement, après la question du Brexit, c'est aussi le regard de l'Europe vers l'Est et jusqu'à où en fait on élargit l'Union européenne, parce qu'il faut aussi le rappeler, l'Union européenne c'est un ensemble composé d'États membres qui partagent une réalité géographique bien sûr, mais aussi une réalité ou en tout cas un ensemble de valeurs, et on l'avait déjà vu il y a quelques années, la question s'était posée par exemple avec la Turquie, est-ce qu'on fait entrer ou pas la Turquie dans l'Union européenne, et là d'une certaine façon, même si c'est pas encore totalement avoué par les leaders européens, il y a toujours quand même cette question des valeurs, est-ce qu'il y a un projet commun, est-ce qu'on partage les mêmes choses, et donc c'est pour ça que Emmanuel Macron prend position de manière assez claire en disant voilà, il faut savoir que jusqu'à présent il y avait des critères, c'était 35 chapitres qui permettaient de régir ou pas l'entrée de pays, nouveaux pays dans l'Union européenne, et Emmanuel Macron est via la voix de sa ministre des affaires, sa secrétaire pardon, d'État des affaires européennes, veut simplifier aussi ce processus là. Elle trouvait que c'était trop une usine à gaz et faire quelque chose de plus graduel, c'est-à-dire on va pas regarder tous les critères en même temps à la fois, on va regarder un critère, si ce critère n'est pas atteint, si les conditions sont pas respecté, on va pas au prochain critère. Ça sert à rien d'aller plus loin. C'est aussi ça un peu, c'est une sorte de rationalité presque du monde de l'entreprise, enfin quelque chose de plus rationnel que Emmanuel Macron veut mettre en œuvre dans ce processus, en tout cas dans l'ouverture de ces négociations pour faire entrer de nouveaux pays membres.
Est-ce que c'est réellement compris en Macédoine du Nord et en Albanie? Parce qu'on l'a vu, il y a eu le match de football d'ailleurs entre la France et l'Albanie pour la qualification à l'Euro 2020. C'est une aparté, mais il y a eu des manifestations autour de ça, autour de ce match. D'ailleurs, pendant le match aussi, pour déclarer que l'Albanie n'est pas forcément super contente par rapport à la décision de la France. Est-ce que c'est réellement compris? Est-ce que c'est bien expliqué, vous croyez, dans ces pays comme justement la Macédoine du Nord ou encore l'Albanie?
Je répondrai d'abord autre chose, Christophe, sur un autre aspect, c'est que c'est déjà pas forcément entièrement compris par les autres pays membres actuels de l'Union européenne. Par exemple, la ministre finlandaise a déclaré que la nouvelle méthodologie suggérée par Paris n'avait pas été discutée de façon précise. Donc, c'est-à-dire déjà, il n'y a même pas de position commune à l'intérieur des États membres de l'Union européenne. Ensuite, vis-à-vis des pays entrants, évidemment que ce n'est pas compris. Hein. On en avait parlé dans ce podcast d'Europa Voice. Les dirigeants de la Macédoine du Nord et de l'Albanie étaient un peu stupéfaits de la position si ferme d'Emmanuel Macron. Et il faut le rappeler encore une fois, non pas sur le processus d'adhésion, mais sur l'ouverture
des discussions
sur potentiellement un processus d'adhésion. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression qu'Emmanuel Macron fermait même déjà la porte à simplement ouvrir une discussion sur une potentielle négociation.
C'est pas vraiment une impression. Il a fermé la porte d'ouvrir la discussion pour l'instant.
Honnêtement. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils étaient surpris du fait qu'Emmanuel Macron, très en amont, dise déjà non. Pour l'instant, même pas d'ouverture de ces discussions sur un processus de négociation. Donc, je dirais que c'est pour l'instant pas partagé par l'ensemble des puissances européennes la position de refonte voulue par le président français. Et bien sûr, pas complètement accepté et compris par les États candidats, les candidats pardon, à l'Union européenne, à l'entrée dans l'Union européenne.
D'accord, alors on va parler maintenant de Donald Tusk. Donald Tusk a été réélu très largement à la tête de son parti. C'est assez significatif parce que Donald Tusk a quand même beaucoup mis son poste en ligne avec les histoires de Brexit. On en parlait dans quelques instants. Et on l'a beaucoup vu, il a beaucoup donné son opinion. Mais ça veut dire qu'en fait, bon, on peut appeler ça un plébiscite presque quand même, honnêtement.
Ah oui, c'est un score même, il y a un dirigeant européen qui a rigolé de ça, c'est un score...
À la Poutine.
C'est un score soviétique. Il faut le dire, bon déjà il était le seul candidat pour succéder à Joseph Daul à la tête du PPE, Joseph Daul qui est à la tête du Parti Populaire Européen depuis 2013, et en plus s'est fait élire évidemment avec 93% des voix des délégués du parti. Donc effectivement c'était plus un plébiscite qu'une élection pour Donald Tusk.
Pourquoi c'est important de le conserver, honnêtement lui, on sait l'expérience qu'il a, mais de le conserver sur ces scènes politiques européennes? Parce que dans des temps un petit peu tumultueux, justement l'après-Brexit, etc., c'est quelqu'un qui vient avec quand même de sacrés bagages en expérience.
Oui, il a une expérience, Donald Tusk, il était premier ministre polonais. Alors il était un petit peu décrié quand il était premier ministre, et il a aussi laissé pour certains le souvenir d'un homme qui n'a pas forcément cherché à transformer radicalement le pays. Et puis il faut le rappeler aussi, parce que c'était un épisode extrêmement douloureux pour la Pologne, lors de son mandat, c'est là où il y a eu la catastrophe aérienne de Smolensk, où le président et frère jumeau de Jarosław Kaczyński est décédé pendant ce crash aérien. Donc il a vécu en Pologne aussi des événements un petit peu difficiles. Mais sur la scène européenne, et on l'a vu d'ailleurs pendant le Brexit, il a toujours voulu conserver deux choses. D'abord, une liberté de ton, ce qui s'était vu de manière assez rare quand même de la part de dirigeants européens, mais aussi
notamment sur Twitter.
Notamment sur Twitter.
Il était assez efficace avec Twitter.
Effectivement, je crois qu'il le sera toujours. Mais aussi conserver l'unité des Européens. Parce que comme beaucoup de dirigeants, je dirais comme Michel Barnier par exemple, le négociateur en chef du Brexit, un des enjeux pour Donald Tusk, c'était que l'unité européenne ne soit pas fracassée ou ne se perde pas sur l'autel du Brexit et des complications du Brexit. Et je crois que c'est aussi pour ça que c'est une bonne nouvelle pour le Parti populaire européen, c'est qu'ils vont avoir à leur tête non seulement quelqu'un qui connaît les arcanes, quelqu'un qui vient de l'Est pour la première fois, vraiment, c'est aussi un
signal. Regard vers l'Est, dont
voilà,
on parlait il y a quelques instants.
C'est un signal très fort, ce qui montre aussi que le Parti populaire européen et les Européens en général ne sont pas réticent justement à, à mettre une focale un peu plus sur l'Est, mais aussi quelqu'un qui aura de l'influence. Faut le rappeler, hein, c'est le Parti Populaire Européen, donc les droites européennes, les Républicains en France, le Parti Populaire en Espagne, etc. Bah, c'est important pour eux aussi, après le score important de Renew Europe et des libéraux, de l'ex-ALDE et du parti maintenant d'Emmanuel Macron, bah de continuer à exister sur la scène européenne. Donc je pense que pour les droites européennes, c'est un signal fort. Sur la question du Brexit, je veux juste vous citer une phrase qu'avait dit Donald Tusk, qui est assez, assez drôle et qui montre bien le personnage. Il avait dit « Il doit exister une place spéciale en enfer pour ceux qui ont promu le Brexit sans avoir la moindre idée de la façon de le réaliser. »
C'est clair.
Et elle est intéressante cette phrase parce que, à la fois, c'est la liberté de ton dont on parlait, mais c'est aussi mettre les politiques devant leurs responsabilités et conserver l'unité européenne. Vous voyez, je trouve qu'elle résume bien en fait tout ce qu'il y a autour de ce personnage de Donald Tusk.
Ouais, c'est un Européen profond quand même, hein. Honnêtement, faut le dire.
Oui, oui, c'est un Européen convaincu, Donald Tusk, et je pense que le Parti Populaire Européen est très content, même si ce n'était pas un vote et plus un plébiscite, de l'avoir à la tête du parti maintenant.
Absolument. Allez, on va parler un peu du Brexit, notamment du débat qui a eu lieu en Grande-Bretagne, donc entre Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition, et le Premier ministre Boris Johnson. Débat déjà intéressant puisque c'était entre deux personnes, un débat bipolaire, je serais tenté de dire. Les autres partis, notamment les Lib Dems et les indépendantistes écossais, ont essayé de participer à ce débat. Il y a eu une action en justice, ils ont été déboutés le jour même de ce débat. Enfin bon, ça y montre bien la tension actuelle sur la scène politique britannique. Par contre, on reste dans une politique bipartie, à droite et à gauche. Il y a une droite, il y a une gauche, et les partis entre, qui ont l'air de représenter quand même un sacré nombre de personnes, n'ont pas eu le droit de citer dans ce débat.
Non, Christophe, effectivement, c'est une situation assez bizarre, et j'irai même un cran plus loin. Ça va être compliqué aussi dans l'après-élection générale et dans la mise en œuvre du Brexit, de rallier les autres partis politiques, parce que c'est aussi ce qu'il faudra faire, hein, c'est de ne pas fracasser non plus l'unité politique du pays, et même de rallier les gens, parce que pendant ce débat, l'opinion populaire, parce que pendant ce débat, on l'a vu, hein, les plus farouches finalement opposants aux politiques de Boris Johnson et de Jeremy Corbyn, et les plus farouches opposants aux personnalités de Boris Johnson et de Jeremy Corbyn, c'était pas seulement les intéressés eux-mêmes qui s'écharpait, mais c'était aussi le public qui intervenait et qui était assez virulent vis-à-vis des deux leaders politiques. Donc c'est aussi, à mon avis, quelque chose qui est un peu sous-estimé maintenant, mais le fait de focaliser tellement le débat sur ces deux leaders et de tellement prendre, finalement, de ne pas assez prendre le pouls de l'opinion publique et de ne pas la considérer, ça risque quand même d'avoir des conséquences assez dommageables après les élections générales.
J'allais vous poser la question, est-ce que c'est une erreur de la part de qui a organisé ce débat d'ailleurs? C'est la chaîne télé ITV. Est-ce que c'est une erreur d'avoir juste concentré ça sur ces deux personnages et ne pas ouvrir le débat à tout le monde?
C'est compliqué, Christophe, de se positionner et d'avoir une réponse claire, de savoir si c'est une erreur ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est déjà assez compliqué de comprendre. Et j'imagine que l'idée, c'était, au vu des sondages, il y a encore eu un sondage YouGov il y a quelques jours de cela, mais j'imagine que l'idée, c'était quand même d'avoir les deux partis principaux pendant ces élections débattre entre eux. Après, la question, c'est bon, le Brexiteers, le parti du Brexit de Nigel Farage, au vu de sa dernière position de ralliement, d'une certaine façon, aux Tories, de ne pas présenter des candidats là où les Tories présentaient des candidats, c'est compréhensible finalement qu'il ne participe pas de ces débats, puisque d'une certaine façon, il rejoint la position, il rejoint la ligne politique de.
Ah, mais la grosse question, c'est les Lib Dems.
C'est les Lib Dems,
honnêtement,
voilà,
parce que l'Écosse, ok, on peut aussi arbitrer sur le fait qu'il y a que les Écossais qui votent en Écosse pour le SNP ou pas. Mais la réalité, c'est que les Lib Dems, on peut voter pour eux partout, et c'est peut-être le seul parti qui est contre Brexit. Et eux, ils n'étaient pas là. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, dommageable pour en tout cas le débat.
C'est ce que je voulais dire, hein, Christophe, c'est qu'en fait, c'est plus qu'une histoire de parti, c'est une histoire de Brexiteers versus Remainers. C'est finalement à ce débat, on n'a pas eu la voix des pro-européens, je vais les appeler comme ça, des Remainers convaincus. On a eu Boris Johnson qui essayait de montrer qu'il y avait une cohérence et qu'il allait mettre en œuvre l'accord du Brexit, qui a donné un calendrier, qui a expliqué, qui a refait la pédagogie autour de l'année de transition, etc. Et on a eu à côté de ça Jeremy Corbyn qui, lui, a attaqué finalement chaque argument de Boris Johnson, disant « Bah non, ça c'est pas possible ». il y a des négociations, des discussions secrètes avec Donald Trump en ce moment pour brader le bijou national qui est
le NHS,
etc. Mais effectivement, on n'a pas entendu la voix de ceux qui sont encore et qui espèrent encore rester dans l'Europe, parce que rien n'est joué et beaucoup de choses vont dépendre de ces élections générales. Donc je dirais que le différentiel, il se fait plutôt moins au niveau des partis qu'au niveau de elle était où la voix des Remainers.
Ouais, absolument. Et puis il faut aussi noter que les conservatifs sont un peu sous le feu des projecteurs en ce moment, parce que ils ont changé leur compte Twitter pendant le débat pour être un pseudo fact-checking et ils ont attaqué ouvertement les Labour en se masquant derrière, en ne disant pas qu'ils étaient simplement les conservatifs, en pensant qu'ils étaient simplement un site qui vérifiait les faits, les fact-checking, mais en réalité c'était les conservateurs derrière, et ça c'était quelque chose qui avait été fait par une personne avant. C'était Donald Trump pendant l'élection présidentielle. Donc les techniques, les tactiques sont transposées ici à travers l'Atlantique.
Oui, je crois que le rapprochement Nigel Farage, Trump ou même la proximité Boris Johnson, Donald Trump, elle ne surprend plus personne. Donc effectivement, que des mêmes méthodes ou des méthodes similaires soient utilisées de l'autre côté de l'Atlantique, finalement.
Ah, il parle la même langue.
il parle la même langue. Et donc, voilà, ça ne surprend plus. Mais c'est ça aussi qui est dommage, c'est que maintenant, le débat, il va se focaliser sur. Moi, mon calendrier, ça va être ça, versus le pays est vendu à une puissance étrangère, on ne veut pas de ce partenariat transatlantique, etc. Alors que, bah, finalement, il y a plein d'autres sujets qui devraient être débattus. Pas seulement la place des Remainers et la volonté de certains Britanniques de rester en Europe, mais les conséquences concrètes sur les mouvements de personnes, les entreprises qui vont devoir quitter le territoire, la question des quotas, la question des visas, la question des barrières tarifaires, la question des négociations entre différents ensembles. On a l'impression qu'en fait, pour l'instant en tout cas, ça va un peu à contre-courant de ce qui se passe dans le monde. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu un accord de libre-échange entre Singapour et l'Union européenne qui a été signée il y a quelques temps de cela. Donc oui, pour l'instant, c'est très difficile d'avoir une ligne d'horizon très dégagée sur l'échelle politique britannique.
Il faut rappeler aussi, on en parlera sûrement un peu plus en avant dans des épisodes à venir, mais une série de pays, notamment l'Australie, ont demandé des compensations financières pour avoir perdu de l'argent dans les négociations à cause du Brexit. Donc maintenant, des pays comme l'Australie qui voudraient et qui sont en train de négocier un accord de libre-échange avec l'Europe, l'Australie, encore une fois, eh bien, demande des compensations à la Grande-Bretagne en disant, bah, nous, avec ces accords, si on va dans ces accords, on va avoir perdu un certain nombre d'argent, des choses qu'on a déjà accordées en partie dans les négociations.
Oui, et cette question de compensation, cette question ces questions financières, elles vont se retrouver entre la Grande-Bretagne et certains pays tiers hors Union européenne, mais elles vont aussi se retrouver au centre des débats entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, parce qu'il y a toujours cette question. La nouvelle commission va être installée à partir du 1er décembre. Il y a eu un mois de décalage, notamment dû à la non-nomination de certains commissaires. Mais à partir de décembre, la Grande-Bretagne fait toujours partie de l'Union européenne, donc devrait logiquement aussi participer au budget de l'Union européenne. Donc ces questions-là, elles n'ont pas fini d'être débattues.
Affaire à suivre, mais cette fois-ci, affaire au pluriel à suivre.
Affaire à suivre au pluriel, Christophe.
Merci Nathanaël.
Merci Christophe.